France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Impostures et mystifications, vaste sujet qui nous occupe depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, postures et impostures de l'écrivain. Dans un précédent épisode, nous avons évoqué la fiction pour les lecteurs et les spectateurs. Tromperie ou feinte ludique, telle que chaque lecteur préserve en réalité la frontière entre réalité et fiction, c'était notre question. Aujourd'hui, c'est l'auteur que nous interrogeons. L'auteur dont les histoires peuvent relever de la fiction ou bien du récit, comme disent les couvertures des livres. Et dans ce dernier cas, des histoires réelles sont souvent engagées, tandis que vient à la bouche le mot non-fiction, non-fiction, puisque ça vient beaucoup des États-Unis. Posons la question franchement, à quoi joue un écrivain ou un journaliste écrivain? Pour qui se prend-il exactement? Quoi qu'il raconte, dans le cas d'une fiction ou d'une moindre fiction, l'écrivain doit épouser une position d'écrivain, peut-être jouer à être écrivain, comme Sartre disait qu'un garçon de café joue à être garçon de café, et il en va ainsi de tous les rôles sociaux. Est-ce là la clé du syndrome de l'imposteur que parfois l'écrivain non seulement éprouve, mais s'autorise à mettre en scène? Qu'on pense au double de lui-même, à tous ces autres « moi » que le sien, qui pullulent à travers les personnages, mais aussi parfois à travers les diverses voies narratives. Y a-t-il un parfum d'imposture dans tout cela? Sans doute, mais c'est peut-être parce que la littérature elle-même l'exige. Voilà notre discussion de ce matin. Bonjour Marie-Ève Terrinti.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature française à l'Université de Montpellier. Vous travaillez beaucoup sur les rapports entre presse et littérature au XXe et au XXIe siècle. Je crois que vous dirigez aussi une collection de non-fiction. C'est chez quel éditeur ?
CNRS Éditions et Décalé.
C'est vrai, vous êtes la grande spécialiste aujourd'hui de la non-fiction en France. Bonjour Pierre Bayard.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature de l'Université Paris 8, psychanalyste. Vous avez écrit beaucoup de livres. Je ne citerai directement en rapport avec notre émission d'aujourd'hui que « Je somme plusieurs » sur les personnalités multiples paru en 2025 aux éditions de Minuit. Personnalités multiples. Notre question, c'est donc de savoir si c'est l'écriture qui réalise le mieux cette chose qui vous intéresse beaucoup. Pour commencer notre conversation, écoutez l'écrivain américain Paul Auster à propos de son roman 4-3-2-1. C'était en 2018, dans la grande librairie sur France 5. François Bunel commence par présenter le livre.
Vous qui nous regardez, est-ce que vous vous demandez parfois ce que votre vie aurait bien pu être si? Alors si vous n'aviez pas eu le même nom, par exemple, si votre père était mort quand vous aviez 7 ans, si vous aviez tourné à droite au lieu de tourner à gauche, et puis si vous n'aviez pas épousé la femme qui est aujourd'hui la vôtre, ou alors l'homme qui est aujourd'hui votre mari, etc., etc. Voilà donc le livre qu'on attendait sur cette question. Le tourment, en réalité, de vivre dans un corps et un seul. Eh oui, un seul corps, bien dommage. Alors voici une vie et quatre possibilités. Une vie racontée sous quatre angles très différents, avec en toile de fond l'Amérique des années 50 et 1960, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, les émeutes raciales, l'assassinat de Kennedy, puis celui de Martin Luther King. Le résultat est impressionnant. C'est peut-être, Paul Auster, votre livre le plus ambitieux, le plus abouti, le plus fort, vraiment. Celui dans lequel se rejoignent vos obsessions d'écrivain. Et puis, pour vos fans, quelques personnages des livres passés qu'on est bien content de retrouver. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez eu l'idée de ce roman.
Je crois que j'avais cette idée dans ma tête, derrière, pendant longtemps. Et un jour, il y a quelques années maintenant, je me suis dit clairement, pourquoi pas écrire un livre où je raconte l'histoire de la vie de quelqu'un, mais dans les voies parallèles. Mmh. Et c'était une idée formelle qui n'est jamais, pour moi, l'inspiration des livres pour moi. Pour moi, c'était toujours un ton, une musique, un personnage, un incident, un son, une couleur, et une histoire développe au-dessus. Et puis, en racontant l'histoire, j'ai trouvé la forme du livre. Mais là, j'avais la forme avant l'histoire.
Avoir la forme avant l'histoire, mais ça a dû le travailler longtemps, Paul Auster. L'idée qu'il y a une toute-puissance de l'écrivain qui peut donner plusieurs destins à ses personnages. Mais en dessous, si on lit son livre 4-3-2-1, on voit que le personnage lui-même est différent dans chacune de ses vies. C'est vrai que c'est par les personnages, souvent, que Pierre Bayard, un auteur, se donne d'autres possibilités de lui-même. C'est assez classique. Est-ce que vous pensez, en effet, que c'est une des fonctions du romanesque pour ceux qui écrivent des romans ?
Alors, ce qui est intéressant dans le passage que vous avez choisi, c'est la formule « et si » qui est utilisée par Bunel. Et comme vous le savez, « et si », c'est la grande formule de l'Uchronie. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait « Si les Beatles n'étaient pas nés ». Mais quand on écoute plus attentivement votre passage, ce qui est remarquable, c'est que le « et si », il est intérieur. Quand on fait une uchronie, on examine différentes vies dans différents mondes parallèles. Si on prend la théorie des personnalités multiples, ce « et si » est intérieur, et donc on est dans une forme d'uchronie intérieure. Ces différentes possibilités de nous-mêmes, elles existent à l'intérieur de nous. Il n'est pas anodin qu'Auster soit américain, parce que le modèle dont je parle dans « Je somme plusieurs », qui est le modèle d'une théorie psychiatrique qui est née en France, mais qui est partie aux États-Unis.
C'est Janet, vous dites que c'est...
Alors, en France, c'est Janet, mais Janet va être estompée par Freud. Et la théorie va partir aux États-Unis, où elle va avoir, à partir des années 70, un énorme succès. Que dit cette théorie ? Elle fait un pas de plus par rapport à Freud. Freud fait un pas de plus par rapport à Descartes. Le jeu n'est pas autonome, n'est pas individuel, il est déjà clivé. Dans la théorie des personnalités multiples, nous sommes plusieurs personnes en même temps. Et c'est à ça que, je crois, fait référence Auster, et c'est en ça que les écrivaines, les écrivains sont importants, parce qu'évidemment, du simple fait de vivre des vies autres par leurs personnages, on peut penser qu'ils illustrent cette théorie, à la fois très singulière, mais très intéressante, dite des personnalités multiples, selon laquelle, là, nous ne sommes pas seulement trois dans ce studio, mais quatre ou cinq ou six ou sept, ce qui risque de compliquer la conversation.
Donc, pour que les choses soient claires, pour ceux qui nous écoutent, vous pensez sérieusement que nous sommes des personnalités multiples. Vous parlez, par exemple, d'une psychiatre américaine qui s'appelle Cornelia Wilbur, je dirais comme ça, qui en 1954 a traité une patiente qui est venue la voir, qui s'appelait Sybille Dorset. Et elle s'est aperçue qu'au fur et à mesure de la cure, Sybille Dorset changeait radicalement d'identité, qu'elle a eu affaire à, par exemple, à une certaine Peggy Lou à la fin. Et votre analyse, c'est que ça n'a rien d'une maladie grave, c'est en fait une vérité universelle, le caractère parfaitement multiple.
Alors, Sybille, en effet, ouais. c'est l'ouvrage majeur, le récit d'une cure par cette psychiatre qui va se rendre compte que la patiente a plusieurs personnalités. Quelquefois, elle en change à l'intérieur même d'une séance. Et comme on est aux États-Unis, ce ne sera pas deux ou trois personnalités, ce sera 16. Parce que les Américains voient toujours les choses en grand. Et ce livre a été un véritable best-seller aux États-Unis. Mm-hmm. Et des centaines de milliers d'Américains, d'Américaines, se sont reconnus dans la cure de Sybille et se sont dit mais c'est moi ça, ou plus exactement mais c'est nous ça. Et donc c'est à partir de là que s'est implanté dans le paysage psychiatrique américain cette catégorie entre guillemets psychiatrique des personnalités multiples, on dit aussi troubles dissociatifs de l'identité, qui existe encore aujourd'hui dans les manuels de psychiatrie internationale. Et pour répondre à votre question, je dirais pas que je la défends. Je l'expérimente, ce qui n'est pas la même chose.
Dans les cures psychanalytiques que vous proposez à des patients ?
Non, je l'expérimente dans le livre. Je propose ce qu'on appelle une expérience de pensée, c'est une tradition philosophique depuis l'Antiquité. Et si nous regardions les autres et nous-mêmes, non pas à travers le prisme de la psychanalyse ou à travers le prisme du cognitivisme qui est en pleine expansion, mais à travers le prisme de cette théorie qui paraît farfelue, mais qui finalement, je trouve, s'applique bien à certains auteurs et à certaines personnes, qui nous donne vraiment le sentiment, suivant les contextes où ils se trouvent, d'être plusieurs personnes différentes. Mais donc c'est une proposition d'expérimentation
que
je fais.
Je trouve ça très intéressant. Et l'expérimentation, c'est au cœur de notre émission, elle est notamment littéraire. Mais quand même, j'ai beaucoup de curiosité. Quel psychanalyste êtes-vous ? Comment vous concevez une cure chez vous ?
Écoutez, moi je suis plutôt un psychanalyste freudien classique. Mais je trouve intéressant de ne pas me limiter à un seul modèle. Tout modèle pour penser nous-mêmes est un modèle réducteur. Nous choisissons certains faits, nous en éliminons d'autres. Le modèle qui me convient le mieux, c'est le modèle freudien. Mais je trouve intéressant que dans l'histoire de la psychologie, on ait inventé d'autres modèles. Et certains écrivains aussi se sont intéressés à notre psychisme et ont proposé d'autres modèles. Pensez à Maupassant, vous avez quasiment un modèle théorique avec le Horla. Donc ce sont ces modèles alternatifs qui m'intéressent comme des propositions de pensée pour essayer de sortir d'un certain dogmatisme.
Alors, Marie-Ève Terrinti, vous êtes notamment une très bonne spécialiste de l'écriture journalistique du 19e siècle et de l'importance pour plusieurs écrivains de se faire détective et journaliste, de trouver des personnages en se disant que c'est peut-être dans la réalité qu'ils vont trouver de vrais autres par rapport à eux. Alors, avant de dire « je » eux-mêmes, parce que c'était peut-être moins fréquent, même s'il y a plein d'exemples, est-ce que la littérature, en allant vers la réalité, plutôt que vers la fiction, n'a pas poussé à bout, justement dans cette période très riche du XIXe siècle, l'idée qu'il lui faut trouver des autres, des vrais autres par rapport à l'auteur, par rapport au lectorat? Et il me semble que par là se joue quelque chose pour les auteurs aussi. Essayer de rencontrer une véritable altérité dans des milieux sociaux qu'ils ne connaissent pas, etc.
Alors oui, ben, ça date sans doute de l'époque romantique, hein, au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on peut dire que il y a deux phénomènes qui incitent l'écrivain. Alors, tous les écrivains sont journalistes, hein, donc la question du...
Tous,
quasiment tous, sauf, disons, Flaubert, ou, et même Mallarmé est journaliste. Donc, quand on creuse Balzac, Gautier, Sand, sont tous des écrivains journalistes, et ils ont tous ce rapport, alors pas à l'époque au terrain et au reportage, mais déjà ce rapport au réel, ce rapport au journal, ce rapport à la matière informative. Mais il y a quelque chose d'absolument essentiel qui est lié d'ailleurs aux médias et qui explique que, effectivement, l'écrivain se dédouble ou peut prendre d'autres identités. C'est à la fois le sacre de l'auteur, hein, tel que Benichou l'a défini, c'est-à-dire que l'écrivain a maintenant la capacité démiurgique de se créer lui-même en tant qu'auteur, de s'inventer un nom, une identité. Mmh. Et l'autre phénomène qui est quasiment contraire, c'est l'entrée dans la littérature industrielle, qui fait que l'auteur devient un nom de marque et que, du coup, on peut se dédoubler, se donner autant de noms et de marques qu'on le désire pour rentrer sur le marché. Et notamment dans le journal, hein, où on peut prendre des identités multiples. Si bien que la plupart des écrivains romantiques vont entrer en littérature sous des identités, de fausses identités.
Donc eux-mêmes, outre leur recherche d'altérité dans d'autres milieux sociaux, etc., qui a quand même été une grande affaire du journaliste du 19e siècle, hein, essayer de voyager plus dans la société, eux-mêmes vont beaucoup jouer à ce moment-là avec leur identité.
C'est ça, ils vont se créer des identités supposées, non pas même dans le texte, comme on le disait avec le personnage, dans notre entrée en matière, hein, mais dans leur identité d'auteur. Hein. Ils vont se créer comme auteur. Je sais pas, c'est un Prosper Mérimée qui commence par le théâtre de Clara Gazul et qui crée, et pour créer
une femme, Clara Gazul.
Il crée
Gazul.
Une comédienne espagnole, ouais. Autrice d'un théâtre. Lui, elle est encadrée quand même par un appareil masculin, puisqu'il y a un éditeur masculin qui la contrôle. Donc il y a changement de genre et c'est pas sans poser des questions, parce que qu'est-ce qu'on fait dire à une femme quand on est un homme, comment on la présente? Il y a tout un... Évidemment, c'est souvent un peu artificiel ou superficiel, le type de littérature qu'on lui prête. C'est Sainte-Beuve qui se construit une identité d'auteur maudit, d'ailleurs mort, Joseph Delorme, donc c'est comme ça qu'il entre en littérature. Balzac a même eu cette tentation, après avoir utilisé toute une série de pseudonymes de littérature industrielle, Horace de Saint-Aubin, dans un premier temps, quand il commence la comédie humaine véritablement avec avec le choix. Dans un premier temps, il invente le personnage de Victor Morillon comme faux auteur et finalement il va y renoncer, il va écrire sous son véritable nom. Pour qu'il y ait une identité supposée, il faut plusieurs choses. Il faut un nom, il faut aussi une biographie d'auteur qu'on va exposer, il faut une œuvre ou des œuvres qu'on va lui attribuer. Et donc on voit bien combien tout de suite cette machine prend de l'ampleur. Et puis il faut un paratexte, quelque chose qui est une préface, quelque chose qui explique cette usurpation d'identité. Ça peut aller très loin. On a ici, ainsi un auteur qui s'appelle Paul Lacroix,
oui,
qui a créé un personnage d'auteur qui s'appelle le bibliophile Jacob, qu'il a gardé toute sa vie pour faire du roman historique. Et ce personnage, il était centenaire. Il avait rencontré au XVIIIe siècle tous les grands de ce monde, Louis XVI, etc. Donc il lui donnait une caution dans le roman historique.
Oui.
Et en fait, il l'a tenu toute sa vie. C'était son étiquette, sa marque.
Alors vous parliez des femmes. C'est vrai que bon, c'est pas facile d'être une femme journaliste au 19e, par exemple. Il faut le savoir, elles n'ont pas le droit d'entrer à l'Assemblée nationale pour écouter les débats, des choses comme ça. Je pense par exemple à Séverine, qui dit, je n'entre pas là, mais peut-être que je peux entrer ailleurs, où ces messieurs, justement, ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas voir. Donc on a beaucoup d'exemples à la fin du 19e siècle, y compris aux États-Unis, de femmes qui vont, comme Nelly Bly, dans un asile psychiatrique pour femmes, pour voir ce qui s'y passe. Et c'est une histoire qui se décline jusqu'à aujourd'hui, c'est même monté encore en puissance. On a un homme comme Günther Wallraff en 1985 qui, là, c'est des milieux masculins, se grime et côtoie les ouvriers d'origine turque en Allemagne pour raconter leurs conditions. Et puis en France, nous avons évidemment Florence Aubenas qui a éprouvé le besoin de changer d'identité pour avoir accès à un autre monde que le sien et que celui qui constitue un peu les milieux habituels de la presse. Écoutez-la.
J'étais installée dans mon bureau, place de la Bourse à l'époque, au Nouvel Observateur, et je regardais cette bourse qui était en train de s'écrouler partout dans le monde. Et moi, je suis là assise, en train de, tranquillement, à mon bureau. Qu'est-ce que je peux faire? Comment, comme reporter, on peut témoigner de cette crise qui est en train de se passer? Donc, une femme, à l'époque, de plus de 50 ans, qui cherche du travail sans avoir aucun diplôme. Et donc, de multiples personnes ont fait ça avant moi. Et donc, me voilà partie à Caen. Donc, j'avais choisi Caen. Alors, à Caen, ils détestent quand je dis ça. Mais j'avais choisi Caen parce que j'y connais personne. Et donc, je risque pas de rencontrer quelqu'un dans la rue qui allait me dire mais qui êtes-vous, etc. Parce que l'idée était de dire, de ne pas faire de faux papiers, hein, c'est pas mes qualités. Dire, je m'appelle bien Florence Aubenas, je suis née, ma carte d'identité est bien la bonne. Mais je ne suis pas journaliste. Enfin, en tout cas, je floute tout cet aspect de ma vie. Et je raconte une autre histoire. Alors, ça m'avait beaucoup amusé de monter ça. Alors, je m'étais assise, je m'étais dit, je vais inventer, je vais être, la femme d'un garagiste. Alors, garagiste, ça m'a toujours semblé hyper sexy, donc voilà. Mon CV est vide, parce qu'il fallait expliquer le vide de ce CV, pour comment, entre 25 ans et 50 ans, vous n'avez rien fait, rien à inscrire. Donc, je suis devenue une travailleuse précaire. Et ça m'intéressait de voir qu'est-ce qui est le pire pour une femme de ménage. Quand j'ai vu passer l'annonce, c'est vrai que je me suis dit, ça y est, c'est pas ma malchance, c'est ma chance.
Et ça a donné le livre Le Quai de Ouistreham. Florence Aubenas s'exprimait là sur France Culture dans À Voix Nue en 2021. Pierre Bayard, je suis sûre, mais peut-être vous allez me démentir, mais je sens que vous allez dire, en fait, c'est un désir de tout le monde. En essayant d'atteindre un milieu, un enjeu journalistique, il y a un enjeu d'écriture, tout ça est vrai. Mais je me demande si pour vous, il ne faut pas rapporter cela à un désir tout simple et parfaitement universel. Le désir d'être la femme d'un garagiste, le désir de faire parler d'autre chose en soi, un autre moi peut-être de Florence Aubenas, ça irait bien avec votre livre d'analyser la chose en ce sens.
Alors, ce à quoi je faisais allusion, c'est à une théorie psychiatrique des personnalités multiples, née en France, partie aux États-Unis, où elle a eu et continue d'avoir beaucoup de succès, qui implique vraiment une dissociation profonde. À la limite, les différentes personnalités ignorent l'existence des autres. Et là, on est dans le cas psychiatrique extrême. Je serais plus prudent lorsque un écrivain, une écrivaine se dédouble, par exemple, ici, pour expérimenter une situation qu'elle ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que ça n'est qu'il n'y a aucun rapport, mais il est vraisemblable, d'après ce qu'on entend là dans l'extrait, que Florence Aubenas maîtrise parfaitement cette personnalité alternative.
Et donc ça peut être un désir.
Elle expérimente. Oui. Hein. Donc on n'est pas véritablement dans le cas des personnalités multiples. Ou encore une fois, pour moi, le critère, j'en ai rencontré dans ma vie, c'est vraiment une sorte de méconnaissance par la personne que vous avez en face de vous des autres personnes qu'elle est.
Mais comment cette théorie que vous laissez circonscrite, hein, vous ne dites pas que tout le monde est dans la dissociation, etc. Comment la joignez-vous à vos analyses de professeurs de littérature ? C'est-à-dire, en quoi les questions que vous traitez là, qui relèvent pas mal de la psychiatrie, vous venez de le dire, vous paraissent utiles pour analyser ensuite des phénomènes littéraires, puisque c'est votre métier, vous êtes professeur de littérature, Pierre Bonnet.
Les conséquences dans le domaine de la littérature sont considérables. Hein. J'invite d'ailleurs fortement Marie-Ève Terrenti à les pratiquer avec ses étudiantes. D'abord, je propose le dégroupement des auteurs, c'est-à-dire je propose de diviser les auteurs en plusieurs auteurs. Alors, c'est accepté pour Gary Ajar, mais Flaubert lui-même dit qu'il est plusieurs personnes. Pourquoi ne pas faire des thèses sur certains Flaubert et des thèses sur d'autres. Je propose des multibiographies, ce que pratiquait par exemple Pessoa, qui était divisé entre quatre personnalités principales, et il écrivait les biographies de ces différentes personnalités. Donc il y a des conséquences considérables dans l'approche des œuvres, et évidemment une réactivation de l'écriture inclusive, parce que moi je la pratique pour ouvrir le champ du langage aux femmes, dont elles sont souvent exclues, mais je pense qu'il faudrait aussi inventer une forme d'écriture inclusive qui nous permette de montrer aux autres notre propre diversité.
Et c'est considérable, hein, quand on vous lit, nous sommes une infinie de personnes, il faudrait trouver une manière d'écrire qui fasse droit à cet infini.
Alors vous savez que cette théorie, elle peut paraître encore une fois un peu farfelue, hein. Elle a eu énormément de succès aux États-Unis, au point qu'on a atteint des sommets, si j'ose dire, de ridicule, mais ou de gravité, parce que les avocates s'en sont emparés et ont expliqué que la personne qui était dans le box n'était pas celle qui avait tué. Ce qui est assez logique, parce que dans une démocratie, contrairement à un régime totalitaire, vous n'êtes pas responsable de ce qu'a fait votre frère ou votre voisin, et vous n'êtes pas non plus responsable de ce qu'a fait votre habitant intérieur. Et ils ont obtenu des acquittements. Parce que si on va au bout de cette théorie des personnalités,
dans le cas que
ce que je vous invite à faire, ça peut aller très loin.
L'irresponsabilité pénale existe, hein, même en droit français, simplement aujourd'hui, elle est de plus en plus réduite. Hein. On aime que les gens soient responsables à peu
C'était
près
l'article 64 qui finalement allait un peu dans la même direction, même s'il était plutôt sur un modèle freudien, je suis pris d'une crise de folie, que sur un modèle jeannetien, Pierre Janet, nous sommes plusieurs personnes qui ne se connaissent pas.
Revenons à Florence Aubenas, s'il vous plaît, Marie-Ève Terrenti. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage, votre dernier livre, qui l'évoque directement, même dans le titre. C'est une vieille tradition d'aller se grimer un peu, mais Florence Aubenas dit qu'elle n'a pas eu tellement besoin de le faire, hein, personne ne l'a reconnue. Pour changer de milieu, au lieu de faire une enquête sur un personnage d'un autre milieu, on y va en immersion, on se met dedans. Vous pouvez nous en parler un peu, du point de vue de l'écriture, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça raconte ?
Oui, alors c'est vrai que c'est une longue tradition, hein. Moi je ne vais pas parler en tant que psychanalyste, mais plutôt en tant qu'historienne. C'est une longue tradition qui remonte à la fin du 19e siècle, dont par exemple un Jack London qui s'est immergé dans les bas-fonds de Londres est un bon exemple. Ça a été très souvent pratiqué par les femmes. Vous avez rappelé le cas de Nellie Bly, qui en 1887 s'était immergée. Alors elle avait joué le rôle d'une folle, enfin je mets des guillemets,
se faire interner.
Ouais, pour être internée dans un asile psychiatrique et pour rendre compte donc des conditions déplorables dans lesquelles les malades étaient laissés. Et en fait, elle a tellement bien joué son rôle que finalement, c'est le directeur du journal qui a dû intervenir pour la faire sortir.
C'était le deal de départ. Elle a dit, vous me sortirez de là. C'était chez Pulitzer, New Yorker.
Vous me sortirez de là si j'arrive pas à en sortir moi-même. Et c'est bien ce qui s'est passé. Il a fallu intervenir. Et d'ailleurs, elle a fait ainsi réformer l'asile psychiatrique. Donc si on se demande si les écrivains du réel ont une influence sur la réalité, on voit que là, c'est le cas. Alors juste sur les femmes... Et pour revenir sur la question du fantasme, il y a aussi toute une tradition du queer slumming, qui est une tradition où on va dans les bas-fonds et on questionne les identités sexuelles, genrées, etc. Et il y a une psychanalyste, d'ailleurs, qui s'est spécialisée dans les années 30 dans ce genre de reportage, c'est Marie Choisy, qui par exemple, a écrit un best-seller, Un mois chez les filles. Elle s'est immergée dans les maisons closes. Alors d'abord comme bonne, puis ensuite elle a même fait le trottoir, en notant à chaque fois ses expériences. C'était l'époque de Belle de Jour, de Kessel, où il y avait tout un fantasme autour de la maison close. Et pour revenir sur la question de la dissociation profonde que ça entraîne, et sur Florence Aubenas, alors certes, il n'y a pas, comme Pierre Bayer le disait, un oubli total de la personnalité de l'autre. Mais en revanche, ces expériences, elles ne sont pas du tout indifférentes. Certains enquêteurs, et c'est le cas de Florence Aubenas, font sur eux-mêmes l'expérience assez troublante de l'influence du rôle et de l'identité d'emprunt. Et donc, finalement, très souvent, ils sont désorientés. Et là, on le voit dans l'écriture. Hein, et nos outils littéraires sont particulièrement, à ce moment-là, utiles pour voir que, effectivement, je et plusieurs. Hein, à plusieurs moments, dans le Quai de Ouistreham, Florence Aubenas réagit comme, entre guillemets, oui, la femme de ménage
dont elle a pris le rôle,
en semblant complètement oublier qu'elle est reporter. Elle n'a plus la force de prendre des notes en revenant. Et finalement, on se trouve devant une sorte... Le récit se transporte dans une sorte de récit d'apprentissage, de roman même d'apprentissage, oui, où finalement, elle devient... elle apprend, non pas avec les armes du journaliste, mais avec les armes de la femme de ménage, comment à la fois rencontrer l'amitié, comment trouver le CDI important, et aussi comment se rebeller, puisqu'elle se rebelle. Et donc, elle introduit une sorte de troupe sociale à l'intérieur de ce milieu qu'elle a. Et donc, il y a vraiment une sorte de conjonction des deux personnalités, dissociation et conjonction des deux personnalités.
Alors, les expériences réelles, vous me pardonnerez, hein, je suis obligée de parler avec le réel fiction, mais je suis consciente, surtout après vous avoir lu, que les frontières ne sont pas toujours parfaitement étanches, mais il faut bien parler. Dans une certaine réalité, un auteur, un journaliste, un écrivain peut changer d'identité et ça a des effets sur son écriture. Mais on le peut aussi dans la fiction, c'est un désir profond, peut-être qu'un écrivain qui a déjà une œuvre à son actif, qui écrit de la fiction, se disent, il faut absolument que je change de nom pour pouvoir écrire autre chose, pour sortir de moi-même. C'est évidemment le cas de Romain Gary, qui a pris ce nom d'emprunt, Émile Ajar, une histoire ultra célèbre. Je vous propose d'écouter un extrait où Romain Gary, un texte où il dit à quel point il était d'être lui-même et seulement lui-même Romain Gary.
J'étais là de n'être que moi-même. J'étais là de l'image Romain Gary qu'on m'avait collée sur le dos une fois pour toutes depuis 30 ans. Peut-être m'y prêtais-je inconsciemment. C'était plus facile. L'image était toute faite, il n'y avait qu'à prendre place. Cela m'évitait de me livrer. Il y avait surtout la nostalgie de la jeunesse, du début, du premier livre, du recommencement. Recommencer, revivre... Être un autre fut la grande tentation de mon existence. Je lisais, au dos de mes bouquins, plusieurs vies bien remplies, aviateurs, diplomates, écrivains. Rien, zéro, des brindilles au vent et le goût de l'absolu aux lèvres. Toutes mes vies officielles, en quelque sorte répertoriées, étaient doublées, triplées par bien d'autres, plus secrètes. Mais le vieux coureur d'aventure que je suis n'a jamais trouvé d'assouvissement dans aucune. La vérité est que j'ai été très profondément atteint par la plus vieille tentation protéenne de l'homme, celle de la multiplicité. Une fringale de vie, sous toutes ses formes et dans toutes ses possibilités, que chaque saveur goûtée ne faisait que creuser davantage. Mes pulsions, toujours simultanées et contradictoires, m'ont poussé sans cesse dans tous les sens, et je ne m'en suis tiré, je crois, du point de vue de l'équilibre psychique, que grâce à la sexualité et au roman, prodigieux moyen d'incarnation toujours nouvelle. Je me suis toujours été un autre, et dès que je rencontrais une Constance, mon fils, un amour, le chien Sandy, je poussais mon attachement à cette stabilité jusqu'à la passion. Dans un tel contexte psychologique, la venue au monde, la courte vie et la mort d'Émile Ajar sont peut-être plus faciles à expliquer que je ne l'ai d'abord pensé moi-même. C'était une nouvelle naissance. Je recommençais. Tout m'était donné encore une fois. J'avais l'illusion parfaite d'une nouvelle création de moi-même par moi-même.
Nicolas Berger de notre équipe lisait, vous venez de l'entendre, Romain Gary, Vie et mort d'Émile Ajar, qui a été publié de manière posthume donc en 1981, où Gary revient sur cette question sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire faire porter quelques livres par un autre, qui n'avait d'ailleurs pas le nom d'Émile Ajar. Comment vous lisez cette histoire très célèbre, presque mythique, puisqu'il a eu deux fois le prix Goncourt sous ses deux noms respectifs. Mais vous, avec votre analyse approfondie des vies multiples et des personnalités multiples, Pierre Bayard, qu'est-ce qui est important là ?
Je suis un fan absolu de Romain Gary, hein, et donc je lis ce dernier texte posthume qui est magnifique avec gaieté et tristesse, parce que le texte oscille entre les deux. Je crois qu'avec Romain Gary, on est dans un cas vraiment emblématique, parce que il est un peu à mi-chemin des écrivaines, des écrivains qui vont adopter des pseudonymes comme des postures ou pour des raisons éditoriales, et des personnalités profondément dissociées auxquelles fait allusion la théorie des personnalités multiples. Au départ, on est plutôt dans la posture, puisque c'est en fait son quatrième pseudonyme. Hein. Gary est déjà un pseudonyme. Ça, ouais. Ensuite, il va en prendre deux autres, Chatham Bogat et Finibaldi, et ça ne va pas marcher. Et c'est la quatrième fois que ça va marcher.
C'est-à-dire que les livres qu'il a fait sous ses autres noms
n'ont pas marché parce qu'il n'y avait plus l'étiquette Romain Gary sur la couverture.
Mais ils sont bons, les livres ?
Très moyen.
C'est peut-être pour ça, alors.
Alors qu'avec Émile Ajar, il va non seulement inventer une identité, mais ce qui est remarquable, c'est qu'il va inventer une autre écriture. Oui. Très différente de celle de Gary, même si dans Vie et mort d'Émile Ajar, il rend hommage à quelques personnes dont il donne les noms qui avaient repéré le stratagème. Donc je crois qu'on est un peu à mi-chemin là. Au départ, c'est certainement une posture d'écrivain, mais peu à peu, il est vraisemblable qu'il y a quelque chose de l'ordre, à moindre mal évidemment par rapport à d'autres, d'une dissociation. Et je crois qu'il vivait en fait très mal cette double identité à la fin de sa vie, alors qu'aujourd'hui on a tendance à trouver que ce qu'il avait réalisé là est absolument exceptionnel, ce qu'il est. Je crois qu'il le vivait assez mal parce que ça rejoignait une question identitaire extrêmement profonde chez lui.
Alors je suis un peu embêtée, je dois vous dire, parce que moi, j'ai souvent pensé que l'écriture d'Émile Ajar ressemble beaucoup à celle de Romain Gary. J'ai du mal à trouver que c'est tout à fait un autre monde. Je trouve que, par exemple, si vous prenez un roman comme Les Enchanteurs de Romain Gary, eh bien, il y a quelque chose de l'enfantin qu'on retrouve dans La Vie devant soi. Donc, je me mets un peu en retrait, là. Mais qu'est-ce que vous en pensez du point de vue Marie-Ève Terrenti, justement de l'écriture?
Alors, lui, il l'a dit d'ailleurs, hein, dans cet écrit tardif où il revient sur la mystification. Il a dit que certains l'ont reconnu grâce au style et qu'il y avait des résurgences et des stylèmes, en fait, qui permettaient de l'identifier. Il n'empêche que, je crois quand même que c'est vraiment un cas vraiment intéressant parce que il y a quand même, il invente une identité, une autre position sociale. Enfin, moi, je suis un peu sociologue, donc c'est aussi ce qui m'intéresse. Il était identifié comme écrivain classique, académique. Il cherche une écriture, un style oral, plus heurté, plus contemporain. Il change aussi la trajectoire sociale, hein, puisque Ajar est supposément issu des marches sociales. Et puis aussi, par rapport à ce qu'on a dit jusque-là des identités supposées, effectivement, il fait incarner son, oui. son corps d'auteur par Paul Pavlovitch.
Qui est un cousin, c'est ça ?
Oui, qui joue publiquement Ajar à merveille. Et donc, certes, on est près de la... De la dissociation.
De la folie, je pensais que vous alliez dire de la folie.
Oui, mais moi je pense quand même aussi qu'il y a un petit côté fumiste, un petit côté aussi ludique, enfin fumiste dans le sens du 19e siècle évidemment, hein, pas dans un sens contemporain, fantaisiste, et puis une sorte d'ironie, de jeu à se moquer de l'institution.
Il y a une maîtrise en fait, au début il y a une maîtrise de la situation par Garry, vous
oui,
croyez
et
pas
puis avoir deux fois le prix Goncourt. Alors que c'est formellement interdit, c'est une façon de faire fi du champ littéraire, du champ institutionnel, de se moquer en fait, de faire un pied de nez à toute l'institution en disant, bah voyez, vous n'êtes pas capable d'identifier un auteur, un fake en fait.
Vous pensez que c'est aussi une leçon qu'il donne aux écrivains, c'est-à-dire pas seulement un jeu avec l'institution est extrêmement subversif, vous venez de le dire. Mais l'idée qu'un écrivain sous une identité finit par constituer quelqu'un, se figer dans une manière d'écrire qui, justement, ne fait pas droit aux multiples que chaque écrivain en lui, et que c'est une injonction, en fait, pour l'écrivain d'essayer de se changer tout le temps. J'ai entendu que ça s'adressait à l'institution, et c'est très drôle ce qu'a fait Garry, mais ça s'adresse aussi à la littérature, non ? Aux écrivains.
Peut-être, sans doute, hein, c'est la question de se figer dans une marque, en fait, et de ne plus réussir à en sortir, et on sait que depuis Garry... Même Rowling, par exemple,
J.K. Rowling, oui.
a changé de nom pour écrire autre chose qu'un Harry Potter, parce qu'elle se sentait prisonnière. Mais je crois que, je reviens en tant qu'historienne à l'époque romantique, les écrivains avaient déjà essayé toutes ces identités. Enfin, la plupart connaissent, en fait, ces effets de figement par la posture. Et alors, parfois, ça, c'est très courant, en fait, qu'un écrivain tente de changer. Là, je prends l'exemple, un autre exemple, celui de Kessel, qui s'est construit une posture d'aventurier, de baroudeur, de noceur, qui était une posture médiatique, un peu sensationnaliste, une posture commerciale, et qui lui a permis de faire une carrière commerciale et d'avoir des succès de vente. Hein, dans tous les médias, il se présentait ainsi, hein, et il racontait des anecdotes très personnelles. Par exemple, il n'a cessé de raconter comment... le jour de la mort de sa femme, il a quitté la veillée pour rejoindre sa maîtresse. Et ça, il l'a raconté plusieurs fois à la radio, à la télévision. Donc, vraiment une sorte de provocation. À la fin de sa vie, il a tenté un changement d'écriture pour essayer de trouver une nouvelle légitimité, d'être... finalement, d'avoir cette étiquette et même cette postérité de grand écrivain. Et donc, il a écrit un cycle, Le Tour du Malheur, où il changeait complètement de style, mais il n'avait pas changé de nom. Et en fait, le Tour du Malheur, qui est un très bon cycle, en fait, où c'était sa comédie humaine à lui, n'a pas fonctionné. Il est aussi entré à l'Académie française, mais en fait, il est resté coincé, en quelque sorte, dans sa première posture. Et c'est seulement à titre posthume, on le voit aujourd'hui, Gallimard le réédite en Pléiade, qu'on a cet avènement, l'idée que Kessel pourrait être aussi une grande plume.
La question de la posture, vous avez employé ce mot plusieurs fois, il est dans le titre de notre émission, semble donc, déjà à elle seule, ce mot, cette notion de posture, sent bon l'imposture, parce qu'il faut se prendre pour quelque chose, et certains écrivains disent qu'ils ont du mal à embrasser la posture de l'écrivain. Mais ce que vous dites aussi, c'est que contre l'excès de posture, il faut à un moment la vraie imposture, c'est-à-dire tout changer, quoi, rebattre les cartes. Est-ce que d'un point de vue littéraire, vous, finalement, c'est ce que vous dites, là, Marie-Ève Terenti, c'est un hymne à l'imposture permanente, quoi, pour surtout que rien ne se fige. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Pierre Bayard, d'un point de vue littéraire?
Alors, d'abord, permettez-moi de revenir sur ce que vous disiez à propos des ressemblances entre Gary et Ajar. Elles apparaissent comme telles aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Et Gary cite dans son dernier livre cette émission de télé où le journaliste compare Gary et Ajar, et à cette formule, critiquant l'écriture de Gary, « Ah, Ajar, c'est quand même un autre talent !» Évidemment, ce qui était très drôle pour Gary, qui regardait l'émission avec son fils Diego. Est-ce qu'il faut se changer sans cesse? J'en suis pas convaincu. Remarquons que ce qu'a fait Gary aujourd'hui serait impossible. Avec les médias, avec Internet.
Pourtant, il a beaucoup utilisé les médias pour faire ce qu'il a fait.
Oui, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourrait maintenir aussi longtemps qu'il l'a fait, 7 ou 8 ans, un dédoublement pareil. Donc, la solution qu'il a trouvée pour essayer de sortir de ce que Marie-Ève appelait très justement une marque, il était devenu, dit-il, une marque. Une marque d'ailleurs héroïque, puisque c'était le grand héros de la résistance, le gaulliste, etc. Mais il était figé dans une identité dont il a essayé de sortir. Est-ce qu'il faut le faire absolument? J'en suis pas convaincu. Moi, je crois beaucoup dans les écrivains qui font une œuvre qui se répète, qui n'hésite pas à tourner en boucle autour d'un certain nombre de thématiques.
Vous faites l'éloge des personnalités multiples. Vous pensez qu'en termes d'écriture, se répéter et rester dans sa personnalité n'est pas si mal?
Oui. Alors, encore une fois, le livre « Je somme plusieurs » est vraiment consacré à une théorie psychiatrique, qu'il ne faut pas forcément appliquer aux écrivains, encore que... Et je ne voudrais pas qu'on termine l'émission sans en parler. Vous avez un auteur fondamental qui s'est référé explicitement dans sa théorie de la création et dans sa mise en scène dans les romans à cette théorie des personnalités multiples, et c'est Proust. Proust est un défenseur de la théorie des personnalités multiples. Proust est un lecteur de Janet, de Pierre Janet. Il ne connaît pas la psychanalyse. La psychanalyse arrive en France au début des années 20. Proust meurt en 22. Mais tout le monde dans son entourage connaît la théorie de Janet. Et Proust ne va cesser de la défendre, aussi bien dans sa théorie de la création, quand il dit que l'œuvre littéraire est l'œuvre d'un autre moi, et que quand vous rencontrez la personne dans la mondanité, vous ne la reconnaissez pas, parce que c'est pas elle.
Et vous ne trouvez pas que dans la recherche... Bien sûr, mais peut-être comme tout écrivain ou comme tout un chacun, on saisit le multiple en soi, il a saisi le multiple en lui-même, et le narrateur et l'auteur ne sont pas tout à fait la même personne. Néanmoins, c'est quand même une grande entreprise d'unification.
Oui, mais c'est déjà.
Il retrouve tout de l'enfant qu'il était. Il y a quand même un geste d'unification dans l'écriture proustienne.
Oui, mais à partir d'une disparité fondamentale. Tenez, je cite un passage d'Albertine disparue. Le narrateur a perdu la femme de sa vie, Albertine, morte dans une chute de cheval. Et il explique comment, quand nous faisons le deuil, ce qui est difficile, c'est qu'il faut annoncer la perte de la personne disparue à chacun des mois qui nous constituent. On n'est plus dans une difficulté temporelle pour le deuil, on est dans une difficulté spatiale. Et il dit par exemple, à chaque instant, il y avait quelqu'un des innombrables et humbles mois qui nous composent, qui était ignorant encore du départ d'Albertine et à qui il fallait le modifier. Il fallait annoncer le malheur qui venait d'arriver à tous ces êtres, à tous ces mois qui ne le savaient pas encore. Il fallait que chacun de ces mois, à son tour, entendît pour la première fois ces mots « Albertine est morte ». Et vous voyez comment là, on est vraiment dans du Janet très pur. On n'est pas du tout dans une théorie unifiante. Et donc Proust est quelqu'un qui va défendre, non pas contre la psychanalyse, puisque ne la connaît pas, mais cette théorie de la multiplicité en nous de plusieurs personnes.
Je vous propose de passer à un autre auteur, Emmanuel Carrère, qui est connu pour, si j'ose dire, l'ensemble de son œuvre. Nous revenons à un livre un peu ancien maintenant, qui est L'Adversaire, et sa fascination pour le criminel Jean-Claude Roman. Je voudrais qu'on écoute la manière dont il a raconté sa tentation, Carrère, sa tentation de faire ce livre.
Une fois décidé, ce qui s'est fait très vite, d'écrire sur l'affaire Roman, j'ai pensé filer sur place. m'installer dans un hôtel de Ferney-Voltaire, jouer le reporter fouineur et qui s'incruste. Mais je me voyais mal, coinçant mon pied dans les portes que des familles endeuillées voudraient me refermer au nez, passant des heures à boire des vins chauds avec des gendarmes franc-comtois, cherchant des stratagèmes pour faire connaissance de la greffière du juge d'instruction. Surtout, je me suis rendu compte que ce n'était pas cela qui m'intéressait. L'enquête que j'aurais pu mener pour mon compte, l'instruction dont j'aurais pu essayer d'assouplir le secret, n'allait mettre au jour que des faits. Le détail des malversations financières de Roman, la façon dont au fil des ans s'était mise en place sa double vie, le rôle qui avait tenu tel ou tel, tout cela, que j'apprendrais en temps utile, ne m'apprendrait pas ce que je voulais vraiment savoir, ce qui se passait dans sa tête durant ces journées qu'il était supposé passer au bureau. Cette question qui me poussait à entreprendre un livre, ni les témoins, ni le juge d'instruction, ni les experts psychiatres ne pourraient y répondre, mais soit Roman lui-même, puisqu'il était en vie, soit personne. Après 6 mois d'hésitation, je me suis décidé à lui écrire, au bon soin de son avocat.
Je vous écoute, Maria Vetinti. L'adversaire a paru en 2000. Si vous voulez, vous pouvez rappeler un tout petit peu l'affaire. Mais la manière dont s'exprime Carrère, là, pour expliquer son désir d'écriture et de rencontre du personnage, je crois que vous avez beaucoup à en dire.
Alors, c'est encore un peu crypté, hein, dans cette... il parle de sa fascination pour le personnage. Alors, le personnage, bon, je rappelle brièvement le fait divers. Jean-Claude Roman, c'est un mythomane, hein, qui a menti toute sa vie, notamment sur sa trajectoire professionnelle, hein, puisqu'il a faim d'avoir passé les examens de médecine, d'avoir réussi médecine, d'être devenu chercheur à Genève. Il a menti à sa famille, à ses amis, et pendant 20 ans, il a réussi à faire croire à ce personnage totalement, enfin cet imposteur. Et jusqu'au moment où, près d'être démasqué, il a finalement pas supporté l'idée que ses plus proches pouvaient découvrir sa vraie personnalité. Il a tué sa femme, ses enfants et ses parents. Et c'est lorsqu'il est encore en prison que Carrère décide d'essayer de consacrer un livre à cette figure et qu'il lui écrit effectivement.
Et donc à un imposteur. Ce qui est important là, je trouve, oui, qui fait la différence avec les autres cas que nous avons évoqués.
Exactement.
C'est que c'est l'imposteur qui l'intéresse.
L'imposteur l'intéresse. Alors, comme souvent dans cette littérature du réel.
Les escrocs aussi.
Les escrocs, bien sûr, les mythomanes. Alexandre Kaufmann a fait un livre sur la mythomane du Bataclan qui avait prétendu assister et être victime de l'attentat du Bataclan. Surtout Javier Cercas a fait ce livre intitulé L'imposteur. Donc c'est vraiment ces personnages-là qui questionnent les écrivains qui se sentent eux-mêmes... souvent, on l'a compris, en position d'imposture, de double personnalité. Ce qui est intéressant dans L'adversaire, c'est d'abord que Carrère avait pensé écrire ce livre comme de sang-froid de Capote, donc Capotti, donc sans se mettre en scène, un peu avec une écriture objective, qu'il a tâtonné pendant des années, et que finalement, il l'a écrit au jeu. Et l'interprétation générale de ce passage à la première personne, qui est devenu une sorte de classique maintenant, de la littérature du réel, hein, se mettre en scène devant les faits qu'on décrit, c'est que c'était assumer le fait qu'il fallait une subjectivité, que l'écriture objective n'était pas possible. Je crois qu'il y a encore autre chose, certes c'est vrai, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi cette volonté de mettre en miroir ce jeu imposteur devant ce personnage qui a complètement réussi son imposture. Alors, le fait que Carrère se voit comme un imposteur, il le dit moins d'ailleurs dans L'adversaire que partout ailleurs. Il le dit dans Kolkhoze, il le dit dans Limonov, hein, où il se montre jeune écrivain, adoptant une position d'écrivain autonome, légitime, moderniste, avant même d'avoir rien écrit, un peu snob, etc. Il dépeint même dans Kolkhoze sa mère, comme faussaire, elle a une carrière d'Encausse, où il raconte qu'à la radio, elle racontait qu'elle était mélomane par une espèce d'auto-formation, alors que dans sa famille, tout le monde était musicien depuis des générations. Donc, il y a vraiment une sorte de fascination et d'auto-description de carrière en imposteur. Et même dans L'Adversaire, il y a une scène anodine, mais qui est très parlante, où, après avoir décrit le début de l'imposture de Roman, lorsque Roman dit qu'il a réussi ses études de médecine, c'est le premier pas, tout d'un coup, Carrère fait une comparaison avec une scène anodine où lui, adolescent, feignait de retrouver devant ses camarades des cigarettes dans sa veste et faisait toute une mimique qui n'intéressait personne. D'imposteur en fait, mais où, qui est-ce qui a mis ses cigarettes ici, etc. Et tout le monde s'en fichait. Et c'est comme une sorte de mise en abîme de la situation même de Carrère dans L'Adversaire. Celui qui se voit comme vraiment imposteur dans L'Adversaire, c'est aussi Carrère en fait.
Et vous disiez que c'est un imposteur qui a réussi. Jean-Claude Roman pourrait dire le contraire. À un moment, il est démasqué et là, c'est le meurtre. Et le suicide, n'est-ce pas, aussi. Je vous laisse le dernier mot. Pierre Bayard, soit sur Carrère, soit sur autre chose, peut-être avons-nous oublié des éléments importants sur les postures, les impostures de l'écrivain.
Je crois que l'opposition entre Carrère et Roman est intéressante. Roman, pour ma part, je ne le mettrais pas dans le cas des personnalités multiples. Ça peut sembler paradoxal.
Roman, vous le dire. Oui.
Roman, c'est-à-dire l'assassin.
Roman, oui.
Parce que quand on reconstitue son itinéraire, c'est un menteur. Et c'est un menteur parce qu'au départ, il rate un examen de médecine et il n'ose pas l'avouer. Il va ensuite s'enliser dans son mensonge, mais il sait très bien que c'est un menteur quand il ment. Et encore une fois, pour moi, il y a vraiment personnalité multiple quand à certains moments, l'une des personnes oublie l'autre. Je vais vous prendre un exemple qui me paraît plus significatif, c'est l'exemple de l'abbé Pierre, qui était à la fois un homme d'une immense générosité et un prédateur. Et regardez sur le net, vous trouverez des textes de l'abbé Pierre dans lesquels il se justifie parce qu'il avait été accusé par l'Église, par des victimes, etc. Et dans ces textes, il montre un ton absolument scandalisé. Mais comment peut-on accuser l'abbé Pierre de faits pareils? Alors évidemment, on va se dire qu'il est hypocrite. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'à certains moments, les personnalités ne communiquaient plus. Et c'est en ça que cette théorie est intéressante, mais comme je l'ai dit, elle est très américaine et je pense qu'il faut l'utiliser avec prudence pour certains cas ou pour certaines situations de la vie.
Si j'étais quelqu'un d'autre et que je voyais toute autre chose, c'est le thème de cette célèbre chanson de Téléphone, Un autre monde. Et en fait, l'autre est moi. Merci beaucoup Marie-Ève Terrinti, merci Pierre Bayard. Les références de vos ouvrages sont sur notre site. Voici à présent la chronique du jeudi, Le Fil Philo. Elle est proposée en ce moment par Laurence Desvillers qui aujourd'hui pose cette question. Pourquoi a-t-on tant besoin de vacances? La réponse avec Henry Thoreau.
Le fil philo.
Je
Les vacances, vous en rêvez toute l'année, vous les attendez et vous regrettez de les voir finir. Vous comptez les jours, plus que 7, plus que 5, et alors vous serez en congé. C'est comme une libération, vous allez être délivré d'une vie de contrainte. Vous allez enfin pouvoir vivre. Je vous propose d'analyser ce besoin de vacances avec le philosophe américain Henry Thoreau. En 1845, il quitte sa ville pour s'installer en pleine forêt, au bord d'un lac, dans une cabane qu'il a bâtie de ses mains. Il en tirera plus tard un livre, Walden, ou La vie dans les bois. N'est-ce pas un peu de cette vie-là, à la fois proche de la nature et ramenée à l'essentiel, sauvage et authentique, à laquelle vous aspirez pour vos vacances ? Mais qu'est-ce que cette vie a de particulier que la vie de tous les jours n'aurait pas ? Tout simplement, à en croire Henry Thoreau, le fait d'être vivante, d'être une vie en éveil, pour reprendre son expression. Une vie où vous sculptez vos jours comme le fait l'artiste lorsqu'il crée. Pour cela, vous devez vous rendre attentif aux détails, au léger murmure d'un moustique, dit Thoreau, comme aux premières lueurs de l'aube. Vous devez cultiver en vous ce quelque chose de cosmique où le simple fait de vivre prend l'allure, déclare toujours Henry Thoreau, d'un exercice religieux, comme un chant, une liturgie, quelque chose de magique et d'ordinaire aussi, une existence faite de splendeur simple. Non plus cette vie mécanique que vous menez le plus souvent où vous êtes comme absent de vous-même, en pilotage automatique, mais une vie plus haute, affirme Thoreau, qui se réjouit d'elle-même. Vivre devient le plus intense des plaisirs. Chaque jour est alors comme un perpétuel matin. Non pas le matin des horloges, mais ce matin intérieur, comme le nomme Henry Thoreau, qui vivifie vos muscles aussi bien que votre cœur et votre esprit. Ces vacances de l'âme exigent de mettre en déroute tout ce qui n'est pas la vie, les mensonges, les artifices, la fumée des opinions, dit Thoreau, que ce soit le temps pour vous d'apprendre à pratiquer l'étonnement, le doute, le questionnement. Libérez-vous des opinions, des préjugés, de ce bruit des commérages, comme les appelle Henry Thoreau, jusqu'à ce que vous retrouviez, quoi donc ? Le fond solide et rocheux que nous appelons réalité. Si vous choisissez Henry Thoreau pour guide, vos vacances seront tout sauf du farniente. Il vous faudra faire preuve de discipline et refuser le moindre gaspillage, celui de votre temps, de vos paroles, de vous-même et de votre attention. Mais cela ne signifie nullement l'ennui. Au contraire, je laisse Thoreau vous faire un aveu. Une ou deux fois, tandis que je vivais près de mon étang, je me surpris à courir les bois en proie à un étrange déchaînement, cherchant quelque gibier que je puisse dévorer, et aucun n'aurait pu me sembler trop sauvage. Cette vie vivante est en effet noble et primitive, alliant la puissance sauvage à la profondeur spirituelle. Car la plus grande des aventures, c'est d'être vivant.
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et François Jost avec à la technique Anthony Maille de Santi, je crois. Elle a été préparée en particulier par Antoine Ravon et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Carla Michel, Nassim El Kabi, Corinne Amar, Luna Adjla. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité!